Ce matin, on va aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Si vous êtes malade ce matin, vous avez des maladies physiques, hein? Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse faire un temps d'onction d'huile pour les malades. Donc, un temps que le service particulier après le message sur ceux qui sont malades physiquement ce matin. Et la Bible dit, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes malade, en Jacques 5, versets 13 et 15, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loyant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Donc, nous voulons prendre à cœur cette promesse de Dieu, la guérison, pour les chrétiens qui souffrent. On prie dans la joie, bon, on chante des cantiques, mais quand on est malade, il y a cette opportunité, justement, de recevoir l'onction d'huile. On ne le fait pas au nom de l'huile. On le fait au nom du Seigneur. Parce que l'huile n'a rien de magique. Hein? J'étais hier dans une église catholique et une chose que j'ai vue, que je n'avais pas vue depuis un petit bout de temps, c'était qu'il y avait un petit récipient puis il y avait de l'eau bénite. Et c'était marqué. Et souvent, les gens dans ce monde attachent de l'importance. Ah, c'est de l'eau, pas comme l'autre, c'est de l'eau bénite. Donc, il y a quelque chose. Mais nous, c'est de l'huile tout à fait normale. C'est de l'huile d'olive, concassée, pure à 100%, que nous utilisons comme la Bible nous mentionne. Mais l'huile n'a pas de propriété pour guérir. Mais dans le Seigneur, au nom de Jésus, il se passe quelque chose lorsqu'on fait l'onction d'huile, parce que pour nous, c'est un point de contact pour la foi. On doit mettre notre foi en action. Il y a trois qui agissent ici. Il y a le malade, il y a les anciens, puis il y a le Seigneur. Et les trois doivent être unis ensemble dans la foi. Le Seigneur honore ceux qui viennent avec lui avec foi. Amen. On n'a aucun problème avec ça. On sait que Dieu va honorer la foi. Alléluia. Mais c'est à nous maintenant. Le malade doit faire quoi? Il doit appeler les anciens. Donc, le malade a une responsabilité. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. On comprend que ce n'est pas nécessairement par téléphone qu'il disait d'appeler les anciens, mais d'avoir un contact, de s'approcher, de désirer, de démontrer leur désir justement d'obtenir cette guérison, de mettre leur foi dans le Seigneur. Ça, c'est la responsabilité du malade. Et la responsabilité de l'ancien, c'est de prier avec foi. La prière de foi relèvera le malade. S'il a commis des péchés, ils seront pardonnés. Si ta maladie est suite à certains péchés, bien, Jésus aussi pardonne tout péché et guérit toute maladie. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, ce matin, tout à l'heure, si vous souffrez de certaines maladies physiques et tout ça, vous voulez la guérison, eh bien, vous êtes invités à venir à l'avant et à le demander. À le demander. Et on va prier à ce moment-là pour la guérison avec l'onction d'huile. Et croyez que lorsque l'huile vous touche, symbolise l'action du Saint-Esprit. Dieu est à l'action, Dieu agit. Et commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Ah, moi, je ne remercierai pas le Seigneur tant que je ne l'aurai pas vu. La foi, on doit croire que Dieu agit. Oui, Yves. Oui, tu peux prendre la place de quelqu'un d'autre que tu connais. Prendre la place de la personne malade, on va faire la même chose. Mais tu dois démontrer cette reconnaissance envers Dieu et pas juste attendre que tu l'aies vécu physiquement. La foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient et elle voit dans l'invisible. Vous savez que Jésus, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a remercié le Père avant que Lazare soit ressuscité. Il dit, ôtez la pierre, il a ôté la pierre, puis il a commencé à rendre grâce. Père, je te remercie que tu m'as exaucé. Mais il n'y a rien de fait. Visible. Il n'y a rien de fait visible. Il est toujours mort, Lazare. Fait qu'il dit, Lazare, sort! Et Lazare est sorti. Et alléluia, il y a un miracle qui s'est passé. Mais avant, il a rendu grâce, que le Père l'avait exaucé. Et c'est ce qu'on doit aussi, on croit. C'est pas une prière de doute ce matin, c'est pas dire, « Oh Seigneur, si tu veux le guérir. » On sait que Dieu veut guérir. On n'a pas besoin de mettre de si. On le connaît la volonté de Dieu. Fait qu'on met l'onction d'huile, puis vous croyez que Dieu, à ce moment-là, vous guérit. Amen? Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 11, 2 et 3. Là, celui-là qui s'occupe des versets va tout être mêlé tantôt. Hein? On pense vous n'aviez pas ces versets-là, mais là, ceux-là, vous les avez. 2 Corinthiens 11, 2 à 3. Et juste d'aller dans ce passage rapidement ce matin. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il ne se passe rien ce matin si l'Esprit n'agit pas. On peut sauter, crier, faire toutes sortes de choses, mais ce qu'on veut, c'est voir la gloire de Dieu. On veut l'action du Saint-Esprit. On veut que l'Esprit agisse. Et dit là, deux, trois, semblant mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que ce matin, on croit que Jésus est ici et que l'Esprit de Dieu est ici et que c'est pas par une démonstration de sagesse humaine ou de capacité humaine ou d'aptitude humaine ou de nos talents et tout ça, mais c'est par une démonstration, ce qu'on veut voir, une démonstration du Saint-Esprit. Et pour voir une démonstration du Saint-Esprit, il faut lui demander. Vous êtes d'accord? Ô Esprit Saint, sois le bienvenu ici. Descends dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Ô Éternel, déjà tu as commencé à agir, ton Esprit agit au milieu de nous. Mais Seigneur, on veut recevoir des révélations de toi. On veut que ça fasse un flash dans nos cœurs. On veut recevoir ce réma, ta parole écrite révélée dans nos cœurs. Et on sait, Seigneur, qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, c'est par ton Saint-Esprit. Agis librement dans nos cœurs. On t'ouvre nos cœurs ce matin. Simplement. Oh Seigneur, interviens dans ma vie. Agis dans ma vie. Manifeste ta gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu répond à ça ce matin. Alléluia, cette prière. Et que nous pouvons justement voir la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Vous savez, un jour, lorsque je suis devenu pasteur d'une certaine église au début, il y a un groupe de personnes qui avaient quitté l'église. Puis, ils m'ont demandé de me rencontrer à part et tout ça. Parce qu'ils voulaient, il y avait des questions, il y avait certaines interrogations et tout ça. Et ça m'a fait plaisir d'aller les rencontrer. Je suis allé les rencontrer. Je me souviens plus du nombre de personnes. Il y était un certain nombre. Et tout ça, ils ont commencé à partager, à dire des choses. Et je me suis aperçu, à un moment donné, c'est qu'ils ne voulaient pas savoir. Ils voulaient me faire savoir ce qu'ils pensaient des églises, ce qu'ils pensaient de d'autres chrétiens, ce qu'ils pensaient de leur pensée vis-à-vis de Dieu, le Saint-Esprit et tout ça. Quelle soirée longue et pénible! Je suis sorti de là, une des pires soirées de ma vie. On a pu en connaître des soirées pires, dans le point de vue physique ou la maladie, tout ça, mais celle-là était pire. Je suis sorti de là. Ah, ce passage me vient lorsque je pense à cette soirée. C'est des frères et des sœurs qui un jour se sont éloignés de la simplicité de Christ. Leurs pensées se sont corrompues. Ils se sont témoignés de ce qui est simple, tout simplement de ce que Dieu veut nous dire, la simplicité de l'Évangile. Il n'y a rien de plus simple que l'Évangile. Alléluia! Ça fait différence de cette réunion lorsque Pierre était chez Corneille, puis il prêche l'Évangile et tout ça, puis il prêche rempli du Saint-Esprit, puis à un moment donné, il n'a pas fini de prêcher, le Saint-Esprit descend. C'est la gloire de Dieu, ils se mettent à parler en langue, ils glorifient le Seigneur et tout ça. Alléluia, merci Seigneur. Quelle soirée! Quelle réunion! Je ne sais pas si c'est en soirée, mais quel temps! Ils ont vécu tout ça. Là, c'était la manifestation de la gloire de Dieu. Tandis que l'autre, il n'y a pas eu une manifestation de la gloire de Dieu. C'était la manifestation de la chair. Et non de la gloire de Dieu. Mais eux, C'était la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assoiffés. Il y avait des cœurs simples. Tout ce qu'ils voulaient, c'est connaître la vérité, recevoir de la part de Dieu. Et ils sont venus avec une attitude pour recevoir. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'ils ont reçu. Alléluia! Et c'est la même chose pour nous ce matin. Ce qui fait la différence, c'est notre attitude de cœur. Alléluia! Est-ce qu'on est assoiffé de Dieu? Est-ce que nos cœurs sont simples? Simples. Il n'y a rien de compliqué. On ne complique pas la vie. Ce que Dieu a dit simple, on n'a pas à le compliquer. Simplement de le recevoir tel que Dieu nous le mentionne et tout ça. Il parle de Satan, des ruses de Satan qui séduisit Ève et tout ça parce que Satan veut compliquer les choses. Il veut compliquer afin qu'on s'éloigne de la simplicité. Vous savez, le jardin d'Éden, excusez-moi, avant je m'étouffe trop. Amen. Jardin d'Éden, c'est un lieu de bénédiction. Un lieu de la grâce de Dieu. Un lieu de la gloire de Dieu. Un lieu que Dieu avait créé pour l'homme et la femme. Un lieu qui pouvait être heureux et tout ça. Et Satan est venu, le serpent est venu compliquer les choses. Et comment qu'il a compliqué les choses? Dieu a-t-il réellement dit? Nous faire douter de ce qui est simple. Nous faire douter de la parole de Dieu et ainsi perdre, parce qu'ils ont été chassés de ce jardin d'Éden et les conséquences en furent terribles. La femme a connu les douleurs de l'enfantement, le travail est devenu ardu, le sol a été maudit, la honte de leur nudité, les épines et les ronces qui ont grandi, la privation de leur vie, la mort s'est étendue à tous les hommes à cause de cette désobéissance. Parce qu'un jour, Satan, rusé, est venu pour compliquer ce qui était simple dans le fond. Jésus est venu afin de nous restaurer. Amen. Jésus est venu afin de nous rétablir. Jésus est venu afin de nous donner la vie en abondance. Jésus est venu afin qu'on puisse vivre à nouveau ce jardin d'Éden spirituel et connaître la puissance de Dieu et connaître la richesse et l'abondance du Seigneur. Je suis la porte. Et celui qui entre par moi, oh, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Oh, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages, des verts pâturages, de beaux pâturages, d'excellents pâturages. Et le terme ici nous parle de tout ce qui est suffisant pour vivre notre relation avec Dieu. Pour vivre une vie chrétienne remplie et riche dans le Seigneur, de verts pâturages. Il entrera, il sortira. Alléluia, c'est ce que nous avons, Jésus. Est-ce que c'est compliqué? Il est la porte. Et on entre par Jésus. Et on reçoit Jésus. Et on laisse Jésus agir. Et on peut vivre ces verts pâturages. Avant de venir au Seigneur, souvenez-vous, nous étions vides. Nos cœurs étaient vides. Tout ce qu'on voulait, c'est remplir de vide. Le remplir par la boisson, le remplir par les parties, le remplir par les richesses, le remplir par le travail, le remplir par le sexe, le remplir par les amis, le remplir par la gloire personnelle et tout ça. Mais plus qu'on essaie tout ça, toujours on dit, je sais pas pourquoi, j'ai toujours un vide. Parce que la chair est insatiable. La chair dit, jamais assez. J'en ai assez. La chair ne dit pas ça. La chair, elle dit, oh, t'es pas encore satisfait, va dans telle chose. T'es pas encore satisfait, fais d'autres choses, fais d'autres activités, cours ici, là. La chair dit constamment ça. Mais Jésus a dit, je suis venu, moi, pour combler le vide. Pour que ton vide soit comblé. Tu n'es plus soif. Tu as trouvé dans le Seigneur. Alléluia, la source d'eau vive. Que tu es satisfait, que tu es comblé. Que tu vis une vie en abondance. Alléluia. J'ai tout pleinement en Jésus. Je suis plein. Alléluia. Comme on a entendu. Oh, nos couples. Nos couples débordent. Nos couples aussi. Nos couples débordent. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Pourquoi chercher ailleurs? Quand nous avons tout pleinement dans le Seigneur. Pourquoi aller ailleurs? Alléluia. Et celui qui boit, qui vient à moi et qui boit les eaux que j'ai pour lui. Oh, alléluia, ce sera des jours qui vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais le voleur ne vient pour que dérober, égorger et détruire. Et c'est pas de la science-fiction. Et c'est pas une invention. Et c'est pas un conte pour faire peur. L'ennemi est rusé. L'ennemi est rusé. Il dit, soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est le maître de l'illusion. Et son illusion, c'est de faire croire qu'il est une illusion. L'illusion de Satan, c'est de faire croire qu'il est une illusion, qu'il n'existe pas, que c'est un conte juste pour faire peur et tout ça. Nous, nous savons, en tant que fans de Dieu, que la vérité, c'est que Satan existe et qu'il est rusé et qu'il cherche qui va dévorer. Tu vois, soyez sobre, vigilants, veillez. Oh. Pierre qui dit ça. Pierre, c'est tout un blagueur. Pierre, il dit bien des choses. Pierre, il exagère bien des situations et tout ça. On prend ça à la légère un peu, ce qu'il dit, tout ça. Non, les chrétiens ont pris au sérieux que c'était la parole de Dieu et qu'il faut être vigilant. Alléluia. Amen. Connaissez-vous des trucs de vos vieux parents, de vos anciens parents, de vos grands-parents? Vous dites, moi, mes grands-parents, ils utilisaient, je sais pas, moi, des clous de girofle, des plures de patates, peu importe, pour guérir ou faire certaines choses. Ça marche, les vieux trucs des grands-parents. Pourquoi changer? Et Satan est comme ça. Pourquoi changer de ruse lorsque les anciennes ruses marchent? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit ce qu'il a dit? Ouh, il faut apprendre, il faut en laisser, il faut pas tout saisir, il faut pas tout prendre, la parole de Dieu, tout ça. Et il a fait cela avec Jésus lui-même. Il a tenté Jésus avec la parole de Dieu, et Jésus est la parole. Il a tenté Dieu, il a tenté Jésus avec la parole. Faut pas être fantasme. Faut pas avoir de l'audace. Pour venir à Jésus qui est la parole, puis le tenter par la parole. Et dire à Jésus, Seigneur, il est écrit, Jésus. Il est écrit. Satan sait qu'est-ce qu'il est écrit. Il dit, oh, jette-toi en bas du temple. Et les anges vont te saisir et tout ça, c'est écrit. Il a tenté Jésus comme ça. Et le Seigneur a répondu, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ah, il s'est pris d'une autre façon. Change les pierres en pain. Il a fallu que Jésus réponde à nouveau. Mais il a poussé l'audace. Imaginez, pensez-y un instant. Il a poussé l'audace à lui montrer les royaumes du monde puis à dire, je vais te les donner. C'est à lui. Il les a toutes créées. Dieu a créé l'univers. Jésus a créé toutes choses. Et Satan va jusqu'à lui dire, je vais te donner tout ça. Ouh! Ça, c'est de l'audace ou c'est de la folie, je ne sais pas. Il est venu à Jésus, mais le premier Adam est tombé, le dernier n'est pas tombé. Le dernier est resté ferme, il est resté écrit dans la parole de Dieu. Il a dit, il s'en est tenu à la parole du Seigneur. Alléluia! Alléluia! Il a persévéré, il a gardé, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a vécu comme un simple homme rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas péché. Et maintenant, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Et Jésus est toujours exaucé. Ça veut dire qu'on peut marcher dans l'assurance de la foi ce matin. Alléluia! Et croire aux promesses de Dieu parce que Dieu est avec nous. Alléluia! Pourquoi compliquer ce qui est si simple? Oh, gloire à Dieu! Faut pas que je m'énerve trop. Parce qu'on ne passera pas l'intro. Les gens ont du trouble à croire ce qui est simple. C'est simple l'Évangile. Amen. Mais si c'est compliqué, c'est vrai. Il faut compliquer les choses. Il est tellement intelligent. Hey, ce qu'il dit est tellement intelligent, je ne le comprends pas. C'est tellement intelligent, je ne le comprends pas. Ça doit être vrai. Hein? Il faut que ce soit compliqué. Oh, la création en six jours. C'est pas possible, la création en six jours. Mais non. Voir si Dieu a pris de la poussière, de la terre, puis créé un homme, et tout ça. Mais non. Mais non, ça a pris des milliards d'années. À un moment donné, il y a un petit poisson qui était dans l'eau.
Puis elle dit, je suis tanné d'être dans l'eau. Fait que je vais sortir de l'eau, puis je vais aller sur la plage. Et là, il a gigoté un peu. Oh! Il est rentré dans l'eau. Puis là, il a dit, oh, Farabin, je me rassais. Il s'est rassaillé tout ça. Oh! Ah, c'est pas pire, je suis capable de respirer. Le petit poisson a vu qu'il y a des membres qui ont poussé. Il y a eu des pattes, hein, des bras, tout ça. Oh! Il s'est mis à marcher. Puis là, il est devenu un singe. Ah! Oh! Oh! Il est devenu un singe et tout ça. Mais à un moment donné, après des milliards d'années, le singe est devenu un homme. Oh, que c'est intelligent! Ah! Oh, que c'est intelligent! Ça doit être vrai! C'est compliqué! Comment t'expliques qu'il y a encore des poissons? Comment t'expliques qu'il y a encore des singes? Oh, un jour, ce sera leur tour. Hein? Comment t'expliques toutes ces choses? C'est compliqué! Au lieu de croire simplement la parole de Dieu, que Dieu a créé l'homme en six jours. Alléluia! Il n'y a rien d'impossible, il aurait pu le créer en une seconde. C'est la puissance de Dieu. Et Dieu l'a voulu ainsi. Alléluia! Mais nous, des fois, l'ennemi vient. Dieu a-t-il réellement dit? Ah, oh, ben moi, je crois à la réincarnation. Un jour, je vais atteindre mon nirvana. Hein, le nirvana, vous savez c'est quoi? C'est briser le cycle de la réincarnation pour devenir parfait. Un jour, je vais atteindre le nirvana et tout ça. J'étais dans mon passé, dans d'autres vies, dans un château en Espagne. J'étais un roi. Mais avant d'être un roi, j'étais une plante. Mais avant la plante, j'étais un chien. Mais je progresse. Puis à un moment donné, je vais réussir à atteindre cette perfection. Oh, que c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. C'est l'homme aime ce qui est compliqué, ce qui n'a pas de sens, ce qui ne peut pas être prouvé. C'est bon, hein, l'évolution et tout ça, on parle de milliards d'années, comment tu peux prouver il y a des milliards d'années? Hein, personne ne peut prouver, donc on peut leur dire n'importe quoi, il y a des milliards d'années, il est arrivé, il y a des milliards d'années, hop, bon, parfait, on le croit. On croit? Ah, ben moi je me suis tourné vers l'acupuncture. Oh, c'est trop simple de se tourner vers le Seigneur. On va se tourner vers l'acupuncture. Ils vont rentrer des petites aiguilles dans les choses. Ils vont frotter ça. Puis là, là ils vont dire quelque chose qu'on ne sait pas quoi, mais ça a bien l'air que ça marche. Puis, ils vont me guérir et tout ça. Si c'est compliqué puis je ne comprends rien, ça doit être vrai. Mais c'est de l'ennemi. Oui, c'est vrai qu'il se passe quelque chose quand il se met les petites aiguilles puis il tourne. Il se passe que tu t'ouvres à Satan. Et lorsque tu t'ouvres à ces choses-là, tu peux t'attendre que Satan ne fera pas juste te soulager. Il va revenir à la charge et il va t'accabler. L'Éternel, quand il bénit, il bénit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui enrichit. Amen. Alléluia! Et on doit réaliser ça et pas se tourner par toutes sortes de philosophies. Je m'étonne, dit Paul, que vous vous détourniez si facilement pour passer un autre évangile. Vous passez un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile. Mais vous dites, oh, telle chose, il faut faire telle chose, il faut accomplir telle chose. C'est trop simple, salut par la grâce. Je m'étonne que vous vous détourniez si facilement de ce qui est si simple. De s'éloigner de la simplicité de Christ par les ruses de l'ennemi. Paul a dit, je n'ai pas d'autre pensée que la pensée de savoir Christ et Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ l'espérance de la gloire. Il n'y a pas d'autre évangile. On ne doit pas s'éloigner de la simplicité de Christ. Le mot veut dire la vertu de celui qui n'a pas de prétention puis d'hypocrisie, sincérité, honnêteté, un cœur généreux. Un cœur qui est ouvert, un cœur simple, un cœur simple. La simplicité de Christ, sans prétention, sans orgueil. Hein? On s'approche de Dieu. Folie pour le monde. Il ne peut pas y avoir juste Jésus. Jésus, oui, une bonne personne, juste. Mais il y a Bouddha, il y a Krishna, il y a Mahomet, il y a Raël. Puis les extraterrestres, il y a Krishna. Il y en a d'autres. Il y a un seul chemin par lequel on puisse être sauvé, et c'est Jésus.
La grâce est trop simple. Faut compliquer ça un peu. Et des fois, l'ennemi essaie de nous faire compliquer ça. Vous savez, dans le temps de l'Église, il y avait des Juifs et des non-Juifs qui acceptaient le Seigneur. À un moment donné, les Juifs disaient aux non-Juifs, « Ouais, c'est bien beau le salut par la grâce, mais si tu ne deviens pas Juif, tu ne peux pas être sauvé. » Là, Paul intervient, là. Ça ne marche plus, là. Si on est sous la grâce, que tu sois Juif ou non-Juif, qu'est-ce qui importe? Il dit, « Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. » C'est pas d'être un circoncis ou un incirconcis, un juif ou un non-juif, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus. Alléluia. Il forçait les chrétiens non-juifs à judaïser. Ce qu'on revoit encore de nos jours. Forçait à judaïser, à devenir comme un juif, à marcher comme un juif, à vivre comme un juif, à faire pratiquer ce que les juifs pratiquaient, ce que Dieu ne nous a jamais demandé. La Bible nous dit qu'Israël nous sert d'exemple, pas d'imitation. On n'est pas là pour faire toutes les fêtes juives. On n'est pas là pour s'habiller en juif. On n'est pas là pour marcher comme un juif. On n'est pas juif. On est québécois. Né de nouveau. Et c'est ce que Dieu nous appelle. On est sauvés. Merci Seigneur pour le peuple physique de Dieu. Mais on n'est pas des juifs de base. On est des chrétiens nés de nouveau. De nouvelles créatures en Jésus. Pourquoi s'éloigner de la grâce lorsqu'elle est si simple? Oh, pourquoi s'éloigner des promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus? Amen. Faut pas croire à toutes les promesses comme ça, là. Deviens pas fanatique un matin. Que penser que si tu avances, puis qu'on fait l'onction d'huile, tu vas guérir. Pense pas à ça. Il y a mieux, hein? Il y a mieux que ça. T'as toutes sortes de la science, t'as la médecine, t'as la technologie, tout ça. Jésus veut nous guérir ce matin et ses promesses sont oui et amen. La parole de Dieu doit être prise telle qu'elle est. Alléluia. Et si on veut demeurer dans la simplicité de Christ, il faut recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est. La parole de Dieu. La parole de Dieu, on la prend telle qu'elle est. La parole de Dieu. Bon. La parole de Dieu, on la prend telle qu'elle est. La parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas, ce livre ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Et ma vie doit être basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Elle donne la vie. C'est la parole tranchante et vivante et puissante. C'est l'esprit de l'esprit. Et on est vainqueur par la parole de Dieu. Il dit, les gens de Thessalonique, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Alléluia. On doit baser nos vies sur la parole de Dieu. Vous savez, j'ai rien contre les livres chrétiens. Vous le savez? Je vais vous le répéter. J'ai rien contre les livres chrétiens, les enseignements ici et là. Mais si tu n'es pas basé sur la parole de Dieu, où va venir ton discernement? C'est ça qui filtre autour. Tout est purifié par la parole et la prière. Donc, je prends la parole de Dieu. Et si je suis basé sur la parole de Dieu, je peux lire et voir et discerner et examiner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Mais pas se laisser embarquer par des ruses. Il y a des chrétiens, des fois, ils vont tomber sur un livre, puis c'est ce livre-là, puis il n'y a pas d'autre chose, puis c'est cette personne, puis c'est lui, puis c'est ça, puis c'est ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et où la parole de Dieu? Et où la parole de Dieu? Ces livres sont là pour t'encourager, te fortifier dans la parole de Dieu. Alléluia! Et pas pour mettre la parole de Dieu de côté, mais la saisir telle qu'elle est. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous, vous êtes ancrés dans la parole. Vous l'avez lu cette semaine. Vous les avez saisis. Vous pouvez examiner ce matin si ce qu'on vous dit est selon Dieu. Parce que vous êtes ancrés dans la parole de Dieu. Dis-moi le nombre de temps que tu passes dans la parole de la vérité et je vais te dire comment ta foi va se porter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Demeure dans la simplicité de Christ. Amen. Alléluia. Des fois, on a certaines difficultés avec certains passages. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des passages difficiles à comprendre. Mais il me semble qu'on a reçu l'Esprit de Dieu pour les comprendre. et demander au Seigneur, « Oh Seigneur, je ne comprends pas tel passage. Explique-moi. Explique-moi qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le ce matin. Et jette-le au loin. Parce que vaut mieux rentrer dans la géhenne te manquant un œil qu'ayant tes deux yeux. Oh! On va-tu faire une réunion d'amputation ce matin? Faites attention, si vous avez une main, un pied, tout ça qui vous conduit vers la chute, arrachez-le. Dieu ne voulait pas dire de s'amputer. Parce que la Bible dit qu'il est venu pour guérir les infirmités. Pas pour qu'on devienne infirme. J'ai pas vu dans les actes, les épîtres, des réunions qui s'arrachaient des membres. Parce que s'il y a des membres qui nous nuisent, ce matin, on est tous infirmes. S'il y a des membres dans nos vies, c'est bien notre corps qui bien souvent nous attire dans certaines choses. On va tout être infirmes ce matin. Donc, il faut bien comprendre, ce n'est pas ce que Dieu voulait dire comme tel. Ce qu'il voulait dire, mes paroles sont esprit et vie. Si c'est trop dur pour toi de renoncer, ampute-toi. Si c'est trop dur pour toi de renoncer à certaines choses, il reste l'amputation. Donc, est-ce que c'est plus dur de t'amputer ou de renoncer? Parce que tu auras beau t'amputer toutes les membres, tu vas continuer à pécher dans ton cœur, si tu veux. Les mauvaises pensées, les murmures, les critiques, les adultères, ça commence dans le cœur. Si tu auras beau t'arracher les bras, les pieds, les yeux, les cheveux, tout ce que tu veux, si tout le monde a beaucoup de cheveux, mais tu vas t'arracher les cheveux, mais ça ne t'empêchera pas de pécher. Dieu est en train de dire, tu ne peux pas dire ce matin, c'est plus dur, renoncer. 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 Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia, je suis plus que vainqueur par le Seigneur. Oh, on a tout pleinement Jésus. Tu ne peux pas dire ce matin, c'est trop dur pour moi de renoncer. Jésus est en train de dire, justement, si tu n'es pas prêt à renoncer, il y a un problème. Parce qu'amputé, te servira à rien au bout de la ligne. Et si tu as du trouble à renoncer, tu dis, je ne suis pas en mesure de renoncer, viens me trouver. On va prier. Puis on va prier sur les promesses de Dieu, et Dieu va agir. Alléluia. Seigneur veut dire, règle ton cœur avant de t'amputer. Règle ton cœur avant de t'amputer. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Laisse Dieu transformer ta vie. Alléluia. On n'est pas des auditeurs oubliés, on veut se mettre à l'œuvre, comme le Seigneur a mentionné. Alléluia. On peut se construire bien des tours, enfant de Dieu, puis compliquer nos vies. Hein, comme dans le temps que Dieu a dit, allez, multipliez-vous. Allez sur la terre et multipliez-vous. Ah, oh, que c'est dur à comprendre, ça. Allez sur la terre et multipliez-vous. Eux, ils ont dit, ben là, non. Non, c'est pas assez compliqué. On va se construire une tour. On va se construire une tour. On va prendre du temps. On va y mettre de la sueur. On va y mettre des efforts. On va se construire une tour, puis on va atteindre Dieu. Tandis qu'on ne peut pas atteindre Dieu. C'est Dieu qui nous atteint. Ils se sont compliqués la vie. Ils se sont attirés la confusion. Et nous, des fois, on se construit des tours. La tour de nos propres pensées. On prend nos propres pensées sur Dieu. Puis on pense que c'est la parole de Dieu. On dit, oh, moi, je pense, sincèrement, que personne ne va aller en enfer. Dieu est bon. Dieu est amour. Personne ne va aller en enfer. Est-ce que c'est ce que tu penses qui est la parole de Dieu ou la parole de Dieu qui est la parole de Dieu? Est-ce que tu as pensé selon Dieu? Ouh! Si tu penses ça, est-ce que tu as pensé selon Dieu? Est-ce que tu crois ce matin que tout le monde va aller au ciel? Non. Parce que le Seigneur a dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, et plusieurs vont aller dans le feu de la géhenne. Ta pensée, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu auras beau penser ce que tu veux sur Dieu. Mais si elle ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, elle est à mettre de côté. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Ajustez-vous à ma pensée. Faites plier votre volonté aux paroles de sa bouche. Arrêtez de penser des choses qui sont contre la parole de Dieu, même si tu ne la comprends pas. Tu as du trouble à comprendre qu'il va y avoir du monde en enfer, même si tu as du trouble à le comprendre, il va en avoir pareil. Ta pensée ne changera pas Dieu. Elle ne changera pas les conséquences du péché. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté de Dieu envers ceux qui croient, sévérité envers ceux qui rejettent cette bonté. Et Dieu a manifesté sa bonté afin qu'on puisse s'ajuster à cette bonté. Mais il reste juste et saint. Et tant qu'il est juste et saint, aucun pécheur va rentrer en sa présence. Et la seule façon pour être pardonné, c'est le sang de Jésus.
Essaye pas d'autre façon. Ta sincérité, ta tour de tes propres pensées ne changera absolument rien à la parole de Dieu. Donc, c'est à nous de s'ajuster. La tour des faux raisonnements. Commencer à se bâtir une tour, pensant que, oh, Dieu, on peut faire un Dieu à notre image. C'est trop simple, faut que je complique un peu les choses. Il dit, mettez en parole, en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. On peut s'égarer et se tromper par de faux raisonnements. Jésus m'accepte tel que je suis. Jésus m'accepte tel que je suis. Jésus m'accepte tel que je suis. Il ne me rejette pas. Je peux faire ce qui me plaît. Dieu m'accepte tel que je suis. Je suis libre, je fais ce qui me plaît. Ça peut devenir un prétexte. Faites pas la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Vous savez, j'aime le chant. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, le suivant. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, pour tout changer, tel que je suis, je viens, il me prend tel que je suis. Pour pas que je reste tel que je suis, mais pour que je change. Alléluia! Ne pas oublier le deuxième refrain de ce chant. Pour tout changer, sauveur parfait. T'auras beau te construire une tour des faux raisonnements, tout ce que tu t'assires, c'est la confusion. Et Dieu nous appelle à pas se construire ce genre de tour des œuvres mortes aussi. Des fois, on peut penser que parce que je loue, je prie, je sers, je fais toutes sortes de bonnes choses, que j'ai un accès plus privilégié dans la présence de Dieu. Tu n'as pas d'accès plus privilégié que moi, que l'autre à côté de toi qui a accepté le Seigneur. On a le même accès. C'est la tour des œuvres mortes. Les œuvres qu'on a en face, c'est des œuvres vivantes. Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi je loue Dieu? Pourquoi je témoigne? Pourquoi je viens dans sa présence? Parce que j'ai reçu tout en Jésus. Je suis sauvé. J'ai déjà un accès privilégié dans le Seigneur. Alléluia! Oh, merci Seigneur, je fais toutes ces choses par pure grâce. Je ne mérite rien, je ne mérite absolument rien, et Dieu me donne tout par grâce. Alléluia, il faut éviter de tomber dans le piège, que parce qu'on fait des choses, parce qu'on fait toutes choses dans le Seigneur, on a plus qu'un autre. Tu n'auras pas plus. Mais parce que tu sais que tu es sauvé, parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu, parce que tu sais que tu es né nouveau, parce que tu sais que tu es une nouvelle créature, et parce que tu sais que tu as la vie éternelle, tu veux servir le Seigneur. Alléluia. Amen. On peut se construire un tas de tours, mais Dieu nous amène juste la confusion quand ces tours sont construits. C'est Dieu qui nous atteint, et c'est à nous de recevoir sa parole telle qu'elle est, telle qu'elle nous dit. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas une balance devant lui, disant que, oh, j'ai menti hier, je vais aller à l'Assemblée matin. J'ai triché hier, je vais aller servir, je vais aller aider quelqu'un. J'ai fait telle chose, ben je pense que je vais aller donner ma dîme et tout ça. Ça va compenser pour le mal que j'ai fait. Dieu ne tient pas une balance du mal ou du bien que tu fais. Si tu fais plus de bien, tu es safe. Si Dieu a une balance devant lui, c'est simple. D'un côté, il y a le sang de Christ, puis de l'autre côté, il y a toi. Et seulement le sang de Christ, alléluia, nous fait qu'on a la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Ce qui pèse dans la balance de Dieu, c'est le sang de Jésus. C'est seulement le sacrifice de Christ. Même si tu essaierais de compenser pour tes péchés, ça n'a aucune valeur devant Dieu. même si tu donnerais tous tes biens, même si tu aiderais tout le monde, ça ne te permettra pas de pécher devant Dieu. Le salaire sera toujours le même, on l'a vu, le salaire du péché, c'est la mort. Demeurons dans la simplicité de Christ. Amen. Venons à Jésus ce matin. La simplicité de Christ est rechercher ce qui est humble dans le Seigneur. Amen. Sans prétention, le mot veut dire sans prétention. Ayez les mêmes sentiments. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alléluia. Êtes-vous attiré par ce qui est humble? Humainement parlant, non. Parce qu'on veut des choses élevées, on veut des choses qui sont en vue, on veut recevoir de la gloire, on veut recevoir de la reconnaissance, on veut que les gens nous apprécient, tout ça. On recherche des choses qui vont être visibles. Le Seigneur dit, recherche ce qui est humble. Recherche pas ce qui est élevé, tout ça. Vous savez, les hommes sont comme ça, hein? Hey, si tu savais, moi, j'ai traversé tel lac à nage. Hein?
Ben, moi, j'ai monté telle montagne. En une journée!
Oh! Mais moi, je vais vous apprendre d'autres choses. J'ai fait face à un ours. J'ai combattu un ours. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand, comme les disciples? C'est qui le plus grand parmi nous autres? Ah, des fois, on est comme ça, hein? Humainement parlant. J'ai la plus grosse moto, j'ai la plus grosse maison, j'ai le plus gros salaire, j'ai la plus grosse job, j'ai la plus grosse ci et ça. Et les gens se font compétition comme ça. Nous, le Seigneur dit, recherche ce qui est humble. Recherche ce qui est humble. On détestait Zachée, pas juste à cause de sa job, percepteur d'impôts, mais Zachée était petit, méprisable. Il n'était pas gros, il n'était pas beau. Et on l'a méprisé pour ça. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? De qui s'est-il approché? Il s'est approché de cet arbre et il dit, Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Quand Jésus regarde au cœur, il regarde à l'humilité de cœur. Il regarde si nos cœurs sont humbles. Tes talents, tes aptitudes, tes forces, ton salaire, tout ce que tu veux n'a pas d'importance face à Dieu. Si tu n'as pas un cœur humble devant lui. Et un cœur humble, c'est de rechercher ce qui est humble et petit. C'est pas chercher à être vu et tout ça. C'est pas chercher les plus belles choses. C'est rechercher à plaire au Seigneur. Et des fois, on est comme ça parfois. On vient de l'ancienne vie, puis il y a des choses qui refont surface parfois. On veut impressionner. On veut être vu, tout ça. On n'est pas toujours prêt à se mettre à genoux pour laver les pieds des autres, pour faire ce qui semble petit. Ah, moi, mes capacités, mes talents, tout ça, je suis pas appelé à laver les pieds, moi. Je suis pas appelé à passer le balai. Je suis pas appelé à placer des chaises. J'ai des talents beaucoup plus élevés que ça. Si c'est ça, commence à t'humilier. Parce que tu es sur la mauvaise voie. Tu t'es éloigné de la simplicité de Christ. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Moi, je t'appelais à de grandes choses. Sois appelé à ce que Dieu te demande de faire maintenant. Amen. Ce que Dieu t'appelle à faire maintenant. Alléluia. Oui, on recherche les dons. Oui, on recherche les meilleurs dons. Oui, on recherche que Dieu manifeste sa gloire. Oui, on recherche la puissance. Oui, on recherche que les guérisons, les délivrances et tout ça. Mais pas au détriment de ce qui est petit. Pas au détriment de ce qui nous semble petit. On doit être prêt à faire les moindres tâches pour que Dieu soit glorifié. C'est pas toujours parce que la puissance de Dieu tombe et tout ça qu'on est agréé de Dieu. C'est de faire les tâches les plus simples dans le Seigneur. Amen. Étienne et Philippe sont pas devenus des évangélistes comme ça, ils ont servi aux tables. Élisée n'est pas devenu le prophète comme ça tant qu'il n'a pas lavé les mains d'Élie. Moïse n'est pas devenu comme ça tant qu'il n'a pas servi à le troupeau durant 40 ans. Josué n'est pas devenu le libérateur comme ça, faire entrer le peuple en Canaan tant qu'il ne s'est pas tenu au milieu de la montagne pour attendre Moïse, que lui recevait les révélations. Il se livrait pas à la débauche avec le peuple, mais il était au centre, puis attendait patiemment Moïse qui recevait les tables de la loi. Pourquoi Dieu a choisi Josué? Pourquoi Dieu a choisi David? Je n'ai ni un cœur qui s'enfle. Je ne m'occupe pas de choses trop relevées pour moi. Pourtant, il a reçu l'onction de roi, David. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont des cœurs de serviteurs,
qui recherche ce qui est humble et qui ne se laisse pas attirer seulement par ce qui est élevé et tout ça, mais qui se laisse attirer par ce qui est humble. Et l'ennemi veut nous éloigner de ça. Il veut qu'on devienne compliqué. Je vais vous apprendre quelque chose que je n'ai pas dit souvent, que pas grand gens sachent, et ce n'était pas nécessaire non plus. Mais quand j'ai été appelé à Montmagny, premier ministère, c'est une église qui n'avait rien. Il n'y avait pas de ministère, il n'y avait pratiquement personne, il y avait des fois pas de chauffage, il y avait le bâtiment qui se détériorait, il n'y avait rien. Mais Dieu m'a appelé, il est là. Sauf que Pasteur Allen m'a fait venir dans son bureau. Et Pasteur Allen m'a proposé d'œuvrer au Carrefour avec les 500, 600, 700 personnes qu'il y avait là, avec les ministères établis, avec toutes les choses en ordre, la musique, tout en bien orchestré, tout ça. Et il m'a offert ça. Mais l'appel de Dieu, c'était pas ça. L'appel de Dieu, c'était Montmagny. Laisse-toi tirer parce qu'il y a un des petits. Cherche pas les grandes choses. Si j'avais dit, regardons ça, si je mets les deux, pas grand monde, l'église qui se détériore, ça va mal, pas de salaire, presque. Et de l'autre côté, il y a du ministère, on me connaît déjà, je connais la place, je connais Alain, je connais Gary, je connais Constance et tout ça. Bon, j'ai dit à Pasteur Alain, Pasteur, Dieu m'appelle à Montmagny. Dieu m'appelle à Montmagny. J'ai attendu sa confirmation, parce qu'il faut se soumettre. Il a ressenti, oui, correct. Je laisse aller. Mais ces choses m'avaient été proposées. Mais Dieu veut qu'on fasse sa volonté et pas notre volonté. On ne se laisse pas attirer parce qu'il est gros et humble. Je me souviens d'une sœur un jour. Je l'ai peut-être déjà dit, c'est pas drôle dans le fond, mais j'ai dit, j'avais des choristes, des musiciens, tout ça. J'ai dit, il faut que je laisse des breaks aux choristes, aux musiciens pour qu'ils s'assoient et que d'autres prennent leur place et tout ça. De temps en temps, aux deux, trois dimanches. Puis une sœur a dit, oh non, je peux pas. Moi, je ne suis pas capable de louer si je n'ai pas un micro. Ça, c'était comme un cri d'alerte. Il est temps que tu la ramènes aux bonnes choses. Parce que c'est éloigné de la simplicité de Christ. C'est pas le micro qui fait si tu vas louer le Seigneur ou pas. C'est toi, ton cœur devant Dieu, de rechercher la simplicité de Christ. Alléluia! Et troisièmement, eh bien, demeurer dans la simplicité de Christ, éviter les discussions vaines et inutiles. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes, qui sont inutiles et vaines. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. On n'est pas là pour avoir des querelles. Amen. On s'éloigne de la simplicité de Christ quand on rentre dans toutes sortes de discussions vaines et inutiles. Et c'est à nous, enfants de Dieu, de s'ajuster et de demeurer dans la simplicité de Christ. J'écoute des émissions des fois dans d'autres pays, puis un pays, entre autres, ils ont l'habitude de faire des émissions de discussion. Les arguments, les pas. Ah, ben moi, je suis d'accord avec ta chance. Ah, non, moi, je suis pas d'accord avec ta chance. Puis l'autre embarque, ben, il verrait peut-être penser que... Puis là, le ton monte, puis là, ils chicanent, puis ils argumentent, puis ils ont l'air aimé ça. Il y a même quelqu'un un jour qui s'est levé, il a pris un fusil, il a tiré l'animateur. Il a tué l'animateur. Laissez-moi vous dire que ça jouait dur. Mais voyez-vous ce que la discussion fait? Voyez-vous les discussions d'opinion et tout ça, puis on discute, puis on va avoir raison, puis on élève. Et la Bible dit, perds pas ton temps avec ça. T'es pas là pour argumenter, t'es pas là pour dire n'importe quoi, t'es pas là pour essayer de faire valoir ton opinion, mais tout simplement, pour chercher ce qui est humble. Il dit, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Ça veut tout dire. On n'est pas là pour faire des argumentaires professionnels, pour être des parlementeux, pour discuter tout sujet. Ah, comme à Athènes. À Athènes, ils prenaient leur plaisir à rapporter et à dire des nouvelles, c'était leur fun. Ils s'amusaient, ils se gargarisaient avec ça. Hey, t'as-tu entendu la dernière chose? Oh! Sais-tu qu'est-ce que je pense? Sais-tu qu'est-ce que tel pense? Sais-tu que tel... Des fois, on m'envoyait des courriels. On ne m'envoie plus tellement. Mais des fois, on m'envoyait des courriels sur tel sujet. Je répondais. Et là, je recevais un autre courriel. C'était plus une page. C'est 4-5 pages. Là, on voulait que j'embarque dans la discussion, que je discute. Fini. Fini. Vous allez me trouver tannant avec Facebook. C'est pour ça que j'ai mis clos à ça. J'ai fermé ça. J'ai dit fini. Parce que tout ce qu'on fait là, pour la plupart du temps, c'est d'argumenter, discuter des opinions. Qu'est-ce que tu penses de ci? Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Puis c'est ça. Dieu, il dit, laisse tomber ces choses-là. Pendant que tu fais ça, l'œuvre de Dieu n'avance pas. L'œuvre de Dieu ne progresse pas. Tu es là juste à parler, parler, parler de tes opinions. Laisse tomber tes opinions. Puis fais l'œuvre de Dieu. Il dit, gardez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cesse de vouloir faire valoir ton opinion. Parce qu'on peut avoir des opinions sur différents sujets. On peut être tous différents sur un même sujet ce matin. On ne veut pas argumenter là-dessus. Ce qu'on veut, c'est faire l'œuvre de Dieu. Quel témoignage que les gens dans le monde vont voir quand les chrétiens argumentent puis se disputent en plein restaurant devant des non-croyants puis commencent à discuter sur des sujets puis le ton monte, tout ça. Quel témoignage! Il dit, « Seigneur a mentionné que tu ne sois pas une occasion de chute, de faiblesse et de scandale pour les autres. » Donc, tu dois penser à ton témoignage. Tu dois penser aux gens autour de toi. Tu n'es pas là pour argumenter. Tu n'es pas là pour faire valoir ton opinion au détriment des autres. Il dit, « Il va arriver des scandales. » Le Seigneur a dit, « Oui, il va arriver des scandales. On ne peut pas les empêcher. Mais malheur par qui ils arrivent. Et que ce ne soit pas par nous, enfants de Dieu. » Que les gens ne soient pas scandalisés du Seigneur, tout ça, à cause de notre faute. Parce qu'on aura voulu faire valoir nos opinions. Et j'ai déjà cité ça, des chrétiens, des fois, devant des non-croyants, se mettent à chicaner, à crier, s'en prendre l'un à l'autre. Oh! Oh! Tu vois-tu qui est autour? Tu réalises-tu ton témoignage? D'enfant de Dieu, d'être un fruit de l'esprit. Un peu de retenue ne nuit pas à personne. La tempérance, c'est de se retenir. La tempérance, c'est d'avoir le contrôle de soi. Et c'est un fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Il faut que tu saches quand t'arrêter. Et laisser tomber ton opinion. Laisse-la tomber, c'est pas grave. Hein? Le feu ne descendra pas du ciel parce que tu n'as pas dit quelque chose. Mais au contraire, alléluia, laisse ces choses de côté et fais accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Recherchez ce qui est humble et petit. La simplicité, sans prétention, laisse Dieu agir. Si quelqu'un a une opinion qui, peut-être, tu juges, n'est pas selon Dieu, prie pour cette personne, mais aime cette personne. Alléluia. La Bible ne dit pas de perdre son temps, elle dit de racheter le temps. Et c'est ce que nous sommes en mesure de racheter le temps. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'ennemi est rusé, rusé comme un serpent. Les vieux trucs marchent encore. Les vieux trucs marchent encore. Dieu a-t-il réellement dit? Chercher à jouer sur l'orgueil de l'homme et avoir des discussions inutiles. Mais ce matin, on aime le Seigneur, amen. On aime sa parole. Et on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est la volonté de Dieu. Êtes-vous prêts de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu, d'être la bonne odeur de Christ? Oh, on est parfumé du Saint-Esprit. Êtes-vous parfumé du Saint-Esprit? Oh, vous savez que quand on rentre dans un marché, tout ça, puis qu'on voit des fraises, puis des framboises, puis tout ça, on dit, oh, que ça sent bon. Des bonnes framboises. Des fruits, ça sent bon. Le fruit de l'esprit sent bon. Quand un chrétien est rempli du Saint-Esprit, ça sent bon. Un chrétien qui a la paix, la joie, l'amour, la tempérance, qui se contrôle, qui n'est pas agressif, qui chiole pas, qui se plaint pas, qui n'essaie pas de faire valoir toutes ses opinions et tout ça. Ça, c'est de la mauvaise odeur, ça pue. Mais l'odeur de Christ, c'est le bon parfum de Jésus. Amen. Il dit, vous êtes l'odeur de Christ parmi les chrétiens, parmi les non-croyants. Parmi les chrétiens, parmi les non-croyants. Vous êtes l'odeur de Christ partout. Et nous le sommes ce matin. Amen. Alléluia. Et on veut s'approcher de Dieu et demeurer dans la simplicité de Christ. Amen. On va se lever ensemble. Alléluia. Oh,